Le voyage a le don de me procurer des emballements d'imagination qui tous portent sur des visions adorables de la vie sédentaire. Après quelques jours dans un pays, dans une ville jusqu'alors inconnue, je repère le quartier, le café, la librairie, le marché où, j'en suis sûre, je vais m'empresser de retourner. Je souligne les trajets que je me délecte à l'avance de répéter. J'accumule les adresses de restaurants, de magasins, je recopie des noms, des numéros de téléphone, prends des notes et couvre des pages de mon carnet de collages de toutes sortes. Comme les gens qui tombent amoureux à chaque nouvelle rencontre, je crois à l'endroit où je viens d'arriver, à la chambre dont on vient de me confier la clé. Ils ont annulé les précédents. Je m'en déprendrai avec la même facilité. Je rangerai livres et vêtements, effacerai mon désordre, épanoui dans la pièce selon un effet de génération spontanée. Je referai mon bagage et rendrai la clé. C'est peut-être cette double vue de la voyageuse qui semble incompréhensible. Qu'elle chérisse les émotions du commencement, qu'elle les éprouve à chaque fois tel un absolu dans la conviction d'un ancrage fixe, tout en se réservant, en quelques zones flottantes d'elle-même, le projet de repartir. Double vue, double vie au moins, forme de duplicité qui fait peur au désir masculin d'une femme à racines et prolongements.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ouvrir la porte d'une chambre d'hôtel, déposer son bagage et soudain se sentir presque flottante à force de liberté. Disposer autour de soi quelques photos, des livres, une étole et regarder par la fenêtre un paysage inconnu sur lequel le regard se lave de la vie quittée, laissée derrière soi, comme si c'était pour toujours. Rêve esquissé d'une vie nouvelle, amour des commencements, comme le décrivait notre cher Jean-Bertrand Pontalis dans un livre paru en 1986. Jouer à se recréer des habitudes, tisser des liens, cesser d'être étrangère, et puis repartir vers l'ailleurs en effaçant ses traces, pour qu'ensuite l'écriture restitue sur la page blanche l'intensité des émotions, les relie grâce à un parfum, un son, une silhouette, aux souvenirs intacts dans la mémoire. Chantal Thomas a l'âme solidement ancrée et le corps éperdument voyageur. Aucune tasse de thé, aucun pavé disjoint ne lui remémorera soudain un souvenir oublié, car rien de ce qui lui importe n'a été oublié. C'est l'écriture qui lui permet, depuis qu'elle s'est autorisée à explorer l'intime, de mettre au jour les différentes strates de sa mémoire. À marée haute, il y a la vie, le voyage, la rencontre. À marée basse, le sable de l'enfance, les voix aimées, les ombres chères. Et dans ce mouvement perpétuel, harmonieux, heureux et mélancolique, naissent des livres comme des galets polis par la mer que l'on aime à déposer comme des bouées dans nos mémoires de lecteurs. Café Vivre est paru au Seuil à la rentrée dernière. De sable et de neige vient de sortir au Mercure de France. Bonsoir Chantal Thomas.
Bonsoir Kathleen Evin.
Pour vous qui êtes une grande lectrice de Proust, j'ai envie de dire que vous êtes un peu l'inverse de Proust en matière de mémoire. Lui butait sur un pavé ou buvait une tasse de thé et tout d'un coup le souvenir ressurgissait. Vous, le souvenir est complètement tissé dans le présent. Et je me demandais si, au fond, vous aviez toujours eu cette impression de vivre un temps étiré, le passé et le présent confondus, ou si c'était depuis que vous étiez autorisé à écrire des livres sur vous, votre mémoire, vos souvenirs, vos parents, vos amours, vos amitiés. Est-ce que ce sont ces livres-là qui ont libéré ce passé présent?
Je crois, je vis éperdument dans le présent. Et c'est en effet relativement récemment, en écrivant, en mettant des mots sur ce rapport particulier au temps, que j'ai compris cet entrelacement vibrant et comme inextricable des deux temps en moi. Mais je pense que la première disposition, elle est d'une adhésion entière au présent. Et peut-être à cause de ça, d'une perception aiguë des sensations. Et lorsque j'écris, les mots entrent en contact avec ces sensations, à nouveau, comme ça.
Les sensations, le physique, cette ivresse de l'enfance, du soleil sur la peau, du sable, des jeux dans l'eau, c'est quelque chose qui a structuré votre mémoire. Et vous citez d'ailleurs dans votre livre, dans ce livre magnifique qui s'appelle « Le sable et de neige », vous citez Chantal Thomas, Jean-Bertrand Pontalis, qui lui aussi aimait la mer, aimait se baigner et... Je vais vous faire écouter un extrait du livre que vous aimez beaucoup de Jean-Bertrand Pontalis, qui s'appelle « Marée haute, marée basse ». C'est la voix de Hugues Kester qui lit cette page de Jean-Bertrand Pontalis.
Chaque été, je passe mes vacances au bord de la mer. C'est une nécessité pour moi. Et chaque jour, je consulte l'horaire des marées. Basse mer, pleine mer, marée basse, marée haute, marée montante, marée descendante, grande marée, ces mots à eux seuls me donnent à rêver. Quand la mer se retire, je vois des estivants, parents et enfants s'avancer sur la plage, qui s'allonge mètre après mètre, jusqu'à rendre la mer au loin à peine perceptible. Elle se confond avec le ciel. Ils vont à la recherche de coquillages dont les enfants feront collection, comme d'autant de bijoux précieux. Ils ramassent des coques, des palourdes, comme on cueille des fruits sur l'arbre. Ils font provision de moules qu'on fera cuire pour le repas du soir. Je me dis que ces coquillages, ces coques, ces palourdes, ces moules en grappes, ces bouts de bois rongés par le sel marin, ces morceaux de corde tombés d'un bateau de pêche, figurent ce qui est déposé dans ma mémoire. De petits restes, comme ils me sont précieux, qui seront tout à l'heure recouverts par la marée haute, mais qui réapparaîtront, ceux-là ou d'autres, quand la mer de nouveau se retirera. Marée basse, marée haute, cette alternance est à l'image de ma vie, de toute vie peut-être.
Chantal Thomas, cette métaphore de Pontalis sur ce que la mer laisse sur le sable comme la mémoire dans... En nous, au fond, c'est un peu votre façon aussi d'aborder les souvenirs et l'écriture de la mémoire.
Je sens davantage dans Marée haute, Marée basse, l'émerveillement d'un pouvoir de métamorphose. Et en écoutant Jean-Bertrand Pontalis, c'est magnifique son texte, je me disais que c'était pas comme ça qu'enfant, j'avais perçu marée haute, marée basse. Je l'ai perçu plutôt comme ce qui vous échappe, comme une proposition pour laisser advenir des éléments sur lesquels nous n'avons pas de prise. Et l'idée du... Encore une fois, l'idée du souvenir, alors que j'en suis tissée et qu'au fond j'écris avec ces souvenirs... mais assez étrangère, paradoxalement. C'est un bain. Je suis dedans.
Et ce qu'il y a pour le lecteur dans De sable et de neige, de même que dans le livre que vous avez consacré au souvenir de votre mère, qui était une grande nageuse, et le titre de votre livre, c'était « Souvenir de la marée basse » en 2017, ce sont des livres où l'écriture me semble épouser justement ce rythme des marées, avec des grandes plages de l'enfance et puis des souvenirs du présent. C'est un rythme qui vous a imprégné complètement, oui. Qui continue à imprégner votre écriture.
Oui, oui, c'est quelque chose qui m'a formée et je crois donné le goût de vivre avant que j'ai pu le formuler. Avant que j'aie pu le conceptualiser. Et donc, ce n'est pas l'objet d'une quête. Et je pense que c'est une sorte d'évidence et je suis de plus en plus du côté du haïku et d'une sorte de tremblement intérieur devant l'irruption du réel, devant sa cruauté ou sa beauté, mais son acceptation totale. Et c'est de plus en plus ce qui me passionne et qui, je crois, dès le départ, me passionnait.
Vous avez écrit beaucoup d'essais dans votre vie, Chantal Thomas, des romans aussi, Les Adieux à la Reine notamment. Et puis, il y a ces livres-là qui sont un peu comme des galets sur la plage de votre mémoire. Est-ce que vous avez une écriture différente pour ces livres-là? Est-ce que l'écriture prend possession de vous d'une manière différente?
Non, je peux dire que, par exemple, quand j'ai écrit L'échange des princesses, j'étais déjà extrêmement présente dans ce livre, à la fois très attentive à l'érudition et aux moindres détails qui pouvaient être prouvés, entre guillemets, et dans une manière d'habiter le maximum ces personnages. Mais mon écriture, j'avais envie qu'elle épouse autant que possible le mouvement de cette histoire et les fluctuations d'émotions des petits personnages. La différence, je pense, avec ce dernier livre, c'est que il m'a été difficile de l'écrire au sens où c'est un secret, une sorte de silence pour moi, la disparition de mon père. Et je l'ai voulu encore plus ou mieux ciseler comme une célébration. Une célébration qui prendrait en même temps toute une vie partagée, celle de mon enfance et la sienne, et tout un paysage ensemble.
Vous avez réussi avec ce livre-là, Chantal Thomas, de Sable et de Neige, consacré à votre père, on y viendra. Quelque chose d'une... Vous parlez de haïku, mais là, il y a une sorte d'harmonie incroyable entre les émotions, les paysages, les références, les citations. Et je voudrais vous faire écouter la voix de Roland Barthes, bien sûr, Roland Barthes, votre maître, et qui, lui, parle de l'écriture alors d'une manière complètement différente. On va rebondir après. Écoutez-le, c'était en 1977.
Je crois profondément à une espèce de hiatus absolument vertigineux et démoniaque presque, entre le sujet qui aime, le sujet qui pense, le sujet qui parle, d'une part, et d'autre part, le sujet qui écrit. Je crois qu'il y a un hiatus terrible entre l'écriture et la personne, en tant qu'elle veut se faire aimer, en tant qu'elle aime. Et je ressens toujours d'une façon poignante le fait que souvent j'écris pour être aimé, au fond, pour être aimé, peut-être même parfois de tel ou tel. Et en même temps, je sais très bien que cela ne se produit jamais, qu'on n'est jamais vraiment aimé pour son écriture, voyez-vous. Mais je veux dire que l'écriture, si on se sent soi-même être un sujet aimant, visant à être aimable, visant à s'épanouir dans l'amicalité, dans la tendresse, par rapport à cela, l'écriture est une activité terriblement sèche, violente. Violente, je ne dis pas tempétueuse, forcément, n'est-ce pas? Mais violente et insupportable, frisant tout le temps l'arrogance, l'assertion dogmatique. Je sens tout cela dans l'écriture, en tout cas dans mon écriture. C'est pour ça que je répugne toujours à me relire. J'ai toujours peur de me voir dans un miroir qui ne me plaira pas. C'est une drôle d'action d'écrire, hein. C'est une drôle d'activité.
Chantal Thomas, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on ressent quand on vous lit. On dirait pas pour vous que l'écriture est une activité violente, arrogante. C'est très étrange d'entendre Roland Barthes dire ça, et en même temps, on se comprend que l'écriture qui était la sienne, l'écriture d'un grand sociologue, d'un grand penseur, d'un grand intellectuel, c'était pas celle qu'il voulait. Il voulait écrire de la littérature. Et c'est étrange de l'entendre souffrir comme ça en parlant d'écriture.
Oui. Je pense que au moment où il exprime cette idée, c'est le moment où il se demande vraiment c'est l'année où il a fait la conférence sur Proust et comment Proust était passé de Sainte-Beuve au roman, et il est torturé par cette question. Et je pense aussi que ce désir d'aimer et d'être aimé, et surtout d'être aimé, c'est une étrange, pour moi c'est une manière étrange de le formuler, parce que je quand on écrit, en tous les cas quand j'écris, il n'y a bien sûr aucun destinataire précis. Et la merveille du long temps que, en tous les cas, que personnellement j'ai mis à être lu, c'est la merveille justement de toucher des inconnus. Et moi, j'ai pas le sentiment d'être un sujet très constitué. Je suis un peu friable et ce rapport à l'inconnu m'est consubstantiel. Et quand j'étais adolescente, par exemple, j'avais aucun fantasme sur aimer, aucun, même d'une certaine façon, ça me déplaisait. Comme si ça allait réduire mon champ d'ouverture à tout. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment de m'être à ce point identifié à un paysage, et à un paysage un peu abstrait, mais chaud, justement. Il n'y a pas de sécheresse, c'est l'inverse. Quelque chose du côté du sable, du reflet doré, de la dissolution dans l'eau. Et l'assertion sèche, à la limite, je vois pas du tout ce que c'est.
En écoutant Barthes dire « on écrit pour être aimé », moi je pensais à votre écriture, je disais « et vous, vous écrivez, Chantal Thomas, parce que vous aimez ».
Oui.
C'est complètement différent.
C'est un geste, il y a un érotisme pour moi dans l'écriture, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment à lui chercher une visée. Je pense au contraire que plus on fait confiance aux ressources du langage et à un langage qui est aussi proche que vous, qui est comme une peau, plus on a des chances que quelqu'un à son tour soit ému.
Alors je le disais, Souvenir de la marée basse, c'était en 2017, le portrait de votre mère Jackie qui était une nageuse énamourée de l'eau sous toutes ses formes. Celui-ci de sable et de neige est consacré à votre père en grande partie. Vous n'aviez jamais écrit sur lui. On va écouter la lecture d'une page qui parle de votre promenade sur le bassin d'Arcachon en bateau avec votre père. Et c'est la jolie voix de Yaël Eladad qui a lu ce livre pour nous.
Quelquefois, la journée de pêche s'achève par une promenade en bateau. On fait le tour de l'île aux oiseaux. On rêve chacun de notre côté d'occuper une des cabanes chanquées. Il coupe le moteur, laisse le bateau dériver au large de l'île. Nous restons silencieux, entièrement absorbé par la contemplation de ces étranges constructions sur pilotis. Inspiré des hérons, peut-être. Avec mon père, je n'ai plus envie de parler, ni de jouer. Je suis saisi d'un sentiment de gravité si intense et entier qu'il me semble quelquefois que le goût de la parole et l'envie de jouer n'ont pas été premiers. Qu'ils ont été des adjuvants, précieux, merveilleux, pour me doter d'une force de désinvolture dans un univers tragique. Il arrive aussi que ce soit comme s'il n'avait jamais été question de pêche. C'est seulement le besoin de quitter le rivage, de s'éloigner. Ces jours-là, la zone agitée des passes fonctionne comme un aimant. D'autres embarcations dans les parages pêchent. Mais pour nous, le but est de tenter le danger, de tester au plus près les capacités de résistance du bateau. Il saute, frôle la bascule, se remet. Bien accroché à mon siège, je me laisse asperger d'eau froide. Je sens que mon père pourrait aller plus loin, sombrer. J'essaye d'oublier le spectre de la vague jaune, la vague chargée de sable, soudain démultipliée par le jeu des courants, qui s'abat sur un navire et le fait chavirer. Je guette la vague monstre. Je me dis que sa mauvaise couleur, son teint de jaunisse, la fera reconnaître d'entre les autres vagues évoluant dans les mille nuances du vert ou du bleu. Je l'imagine énorme, certes, mais peinte en jaune vif, en signal du danger qu'elle signifie. Dans le même temps, rappel des cruelles légendes de la mer, une voix me dit « Mais lorsque la vague jaune s'est élevée de la surface des flots, a surgi gigantesque au-dessus du fétu de paille de votre bateau, il est trop tard. » Mon père hésite, rebrousse chemin du côté du calme du bassin, de la continuité sans histoire. Franchir les passes, larguer les amarres, encore une fois, il ne l'a pas fait.
la vague jaune, encore une fois, la manquait. Peut-être parce que j'étais avec lui. C'est une pensée douce amère qui s'évapore dans le vent marin.
Chantal Thomas, votre père est mort jeune, à 43 ans. Vous aviez 17 ans et vous écrivez « Mon père est mort de silence comme on meurt de solitude ou de faim ». C'était un père silencieux qui vous a transmis quelque chose de ce silence.
Oui, j'ai eu d'une part, et j'ai une pulsion de parole incroyable, une énergie et un plaisir à la conversation. Et en même temps, j'ai toujours su, sans doute par proximité avec mon père, justement, et avec cet abîme de silence qu'il préservait ou dont il était prisonnier, j'ai toujours été branchée sur autre chose, sur le non-dit, sur ce silence qui est dans La Princesse de Clèves, par exemple. C'est un silence qui m'est consubstantiel, mais à côté duquel, et aussi avec lequel, et l'écriture c'est ça aussi, j'ai construit et j'ai essayé de perfectionner quelque chose du côté de l'art de la parole. Et, parce que, au fond, il y a une, on a ou on n'a pas une passion du langage. Et je pense que mon père ne l'avait pas. Et le silence qui, je crois, a été si grave pour lui, c'était la difficulté à dire son désir. Sinon, il y a un autre silence qui est parfaitement heureux, qui représente une plénitude. Donc, avec lui, dans sa compagnie, j'expérimentais deux silences. Un silence d'apaisement et qui, au contraire, vous permet d'être plus proche du monde, de mieux voir sa beauté. Et surtout quand il était avec d'autres ou en famille, un silence malheureux qui est ce qu'on s'interdit de dire ou ce qu'on ne peut pas dire.
Et puis vous dites que après sa mort, au fond, vous avez choisi le monde pour ne pas mourir à votre tour, pour ne pas mourir de chagrin, et qu'en fait, à ce moment-là, vous avez choisi de vous ouvrir au monde et de voyager, vous avez commencé à voyager.
Oui.
Comme si c'était aussi un héritage, comme si vous réalisiez peut-être un rêve de votre père.
C'est quelque chose que j'ai pensé sans doute très vaguement et peut-être assez, qui m'a animé assez inconsciemment. Mais écrire un livre permet justement de formaliser, de formuler ces pulsions assez obscures qui nous ont animés. On est changé par l'écriture, par sa propre écriture.
Et dans ces voyages qui vous sont advenus à ce moment-là, il y a eu bien sûr New York et le Chelsea Hotel.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans le coin le plus obscur de la cour, le mur est percé d'une fenêtre en hauteur. Cette fenêtre demeure fermée une grande partie de l'année. Elle ne s'ouvre que les jours très doux. Ce coin d'ombre m'intrigue. J'ai vite fait de trouver moyen de me glisser jusqu'à la fenêtre. Je me hausse sur la pointe des pieds et jette à l'intérieur de la chambre des regards furtifs. Presque à chaque fois, de l'autre côté, les grands yeux tristes d'un petit garçon alité me répondent. Je reste aussi longtemps que possible cramponné au rebord de la fenêtre. Le petit garçon ne me sourit pas. Il se contente de me fixer avec intensité. J'en éprouve des tressaillements étranges de joie et de désespoir mêlés. Nous pourrions à mi-voix nous dire deux mots, ébaucher un bonjour, échanger nos prénoms. Selon l'accord tacite qui règle nos entrevues, c'est exclu. De lui à moi et réciproquement, se tend l'arc d'un désarroi sans solution. Que ce jeu soit interdit, et même si gravement qu'il n'entre dans aucune catégorie de fautes répertoriées, j'en suis consciente. Et cela va avec le fait que pour m'approcher de la fenêtre surélevée, je me soucie autant d'échapper à la surveillance des maîtresses qu'à celle de mes camarades. Rien ne me fait plus horreur que d'imaginer le visage espiègle d'une gamine surgissant dans l'encadrement de la fenêtre, faisant intrusion dans le jour de souffrance. Par crainte d'être responsable d'un pareil accident, je préfère m'abstenir de ces visites. Il fait chaud. J'ai troqué mes chaussettes contre des soquettes. Et pourtant, la fenêtre n'est plus ouverte depuis 10 jours. À bout d'anxiété, je trahis mon secret et parle à mon grand-père du petit garçon. « Il est mort, lui dis-je. »« Qu'en sais-tu ? » me répond Félix. « Il est peut-être guéri. »« On peut guérir, ça arrive. »« Regarde, moi, » sourit mon grand-père. Dans mon esprit, l'enfant malade n'est pas nécessairement mort, mais il ne guérira jamais. Je répète avec lui une manière d'aimer qui m'est trop essentielle pour que j'envisage d'en être privée. Une manière d'aimer muettement. Il y aurait d'un côté les filles fusionnelles avec leur mère, éperdues de caresses et de mots tendres. De l'autre, les filles amoureuses de leur père. Celles-ci sont vigilantes et distantes. Gardiennes d'un secret qu'elles savent partager.
Lecture par Yaël Elada de cette petite page de souvenirs d'enfance qui débouche sur quelque chose qui parle de vous dans cette manière de rester vigilante et distante.
C'est un souvenir assez fantasmatique, il faut le dire. Mais oui, cette vigilance et distance, je pensais justement à quel point, dans Fragment d'un discours amoureux, le texte de Barthes, le fragment de Barthes sur « Je t'aime », et la manière dont il dit « il faut le dire facilement, ne jamais hésiter, pour moi, c'est l'antithèse. C'est-à-dire, dire je t'aime m'est extrêmement difficile. Et plus on réfléchit sur soi et plus on vit, je crois, plus on s'aperçoit qu'il y a mille manières de communiquer ce sentiment d'amour. Et tout à l'heure, nous écoutions Leonard Cohen, et je trouve qu'on ne peut pas l'écouter sans être amoureuse. Ce surgissement du sentiment amoureux, on l'éprouve enfin dans une intensité totale. Et on le vit à sa façon, avec les moyens de l'enfance, en étant dépassé par des passions torrides. Et c'est une chose de l'enfance qui continue de m'animer. La disproportion entre ce qu'il apparaît de nous à l'extérieur et les tempêtes et l'idée fixe qui peut nous habiter. Et je pense que quand j'accompagnais tout simplement mon père en bateau, il se jouait quelque chose d'extrêmement passionnel, sans mots, sans gestes. C'était une manière d'être qui nous consumait d'une certaine façon, par moments, et qui par d'autres était très légère. Et je pense que c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, les vagues, l'aller-retour, marée haute, marée basse, on vit comme ça plutôt. Et l'amour prend tellement de couleurs et a tellement de degrés d'intensité variable que c'est ça qui est merveilleux. Et j'ai toujours peur que dire « je t'aime » le fige en une seule note.
Ce livre de Sable et de Neige, Chantal Thomas, il est paru dans la très belle collection que dirige notre amie Colette Felouse au Mercure de France. Elle s'appelle « Traits et portraits » et sa caractéristique, c'est de demander aux auteurs d'apporter des photos. Et dans ce livre, il y a des photos en noir et blanc de votre enfance, des photos personnelles, et puis il y a des photos en couleur d'Alan Weiss, en couleur, d'aujourd'hui, donc l'aujourd'hui en couleur, le passé en noir et blanc. Et elles se mélangent d'une manière formidable, parce qu'il y a une montée chromatique, si on peut dire, pour aller vers les couleurs de Kyoto qui terminent votre livre. Et ce choix des photos, ça a été quelque chose d'évident pour vous, de retrouver vos photos de vous, petite fille, votre père, jeune homme. On voit des photos de la maison où vous habitiez sur le bassin d'Arcachon. Et puis après, on passe dans l'éclaboussure des couleurs du Japon.
Oui, c'est-à-dire, il y a d'une part la progression du récit et d'autre part la progression des photos. Et on a pensé, parce que Alan Weiss a vraiment travaillé avec moi, qu'une partie du récit se disait déjà par les photos. C'est-à-dire que les premières photos d'Arcachon, par exemple d'algues marines, sont déjà dans une sorte d'esthétique japonaise. Et une photographie de la dune du Pilat en particulier, très funèbre tout d'un coup, et comme annonciatrice du désastre et de la mort. Et cette montée vers la couleur, c'est une montée aussi vers un silence heureux, le silence de la neige, et vers une sorte d'accord parfait. Et de même qu'il y a l'événement tragique de la mort de mon père en début d'année, à l'orée d'une année, comme une sorte d'ironie macabre de l'idée du commencement, le dernier chapitre, qui est Kyoto, se termine sur aussi un 31 décembre. Et cette fois, il est dans la douceur de la neige et dans un blanc qui est lumineux, qui est le contraire du blanc terrible du suaire ou de l'hôpital. Et la beauté de cette collection de Colette Felouse, c'est que elle a beaucoup réfléchi à partir de Roland Barthes aussi, puisque on est amis depuis et même avant le séminaire de Roland Barthes. Et donc, et elle-même dans ses livres utilise beaucoup les images. Et on peut tisser une avancée qui fait que les images ne sont pas du tout illustratrices, mais qu'elles induit la pensée ou la rêverie et l'imagination dans une direction qui élargit la totalité.
Alors, élargir, justement, on a l'impression que pour vous, Kyoto, c'est l'endroit d'un accomplissement, l'endroit d'un apaisement aussi, d'un émerveillement de la beauté. Toute cette partie s'appelle le pont qui traverse le temps, ça veut tout dire. Et beaucoup de choses dans ces dernières pages doivent rester ce soir secrètes. Il faut que les auditeurs ouvrent le livre. Chacun doit en avoir une lecture personnelle. C'est très important. Mais on a retrouvé justement, fait par Colette Felous, qui a fait des voyages à Kyoto, un petit extrait avec un écrivain qui s'appelle Antonin Potocki et qui parle de quelque chose que vous décrivez très joliment, Chantal Thomas, c'est ce geste à peine esquissé qu'ont les Japonais pour se dire au revoir.
Quand les passages cloutés passent au vert pour les piétons, on a vraiment l'impression qu'on est chez soi au milieu de l'avenue. Les voitures sont tellement sages et garées en ligne devant nous. Les petits bruits rassurants des feux nous disent qu'on est chez nous sur le passage clouté. Et on vient de voir deux Japonaises se faire un petit signe de la main pour se dire bonsoir. C'est un geste qu'on ne voit pas ailleurs dans le monde. La main, on ne peut pas mettre la main en avant. Ce serait trop se mettre en avant. Alors la main est très rapprochée du corps, contre l'épaule ou contre le torse, les doigts grands ouverts, et on bouge très discrètement cette petite main. On ne sait pas comment se dire au revoir. Les Japonais sont complètement désemparés au moment où on se quitte, avec ce petit geste d'une infinie tristesse et d'une infinie timidité. On vient de le voir là en traversant le passage clouté de Kyoto.
C'était une émission réalisée par Colette Felous en 2004. Et ce petit geste, ça exprime quelque chose qui pour vous est très important au Japon, justement, ces sentiments qui restent bien enfermés à l'intérieur sans démonstration.
À la fois enfermés et qui trouvent leur forme parfaite.
Je sens que le Japon a pour vous été quelque chose qui ressemble presque à un commencement.
Oui. Vraiment.
C'était un plaisir en tout cas, Chantal Thomas, de vous recevoir ce soir pour parler de ce livre que je recommande en ces temps de désespérance. Je vous assure, il faut lire des choses qui font du bien. Celui-ci s'appelle « De sable et de neige » et il vient de paraître au Mercure de France. Et Madame l'académicienne, nouvellement élue, je vous félicite, je vous salue et je vous souhaite bientôt de retourner au Japon. Au revoir Chantal Thomas.
Merci infiniment.